Radio Classique, grand témoin.
Investisseur congolais résident au Canada, Nickel Rumbo Kadmouim, est aujourd'hui l'invité de grand témoin. Tato Kumbo Shikaimwan.
Excuse-moi, Shikaimwan.
Nawampwan, ai-je bien parlé?
Bien sûr.
J'étais en train de vous souhaiter la bienvenue à Ronde, votre langue maternelle. Le 19 mars 1956, la ville de Lubumbashi, au Katanga, vous voit naître. Nickel Rumbo Kadmouimbo, que signifie votre nom?
Bon, mon nom, comme Kadmouimbo, c'est David sans frontières. C'est un nom que j'ai récupéré à Angola. Mais non, sinon, de mes parents, c'est Rumbo. Comme les Tengoy. Et Nickel, bien sûr, c'était venu après, parce que vous savez très bien, dans les temps, dans notre pays, le nom chrétien ou bien quoi, européen était exclu. Ce qui fait que vous trouverez sur mes documents académiques le nom authentique. Nickel Kumpani, c'est ainsi qu'on m'appelle.
Marié et père de 6 enfants, vous êtes apparemment de nature timide. Quel genre d'enfant étiez-vous?
Bon, j'étais un peu turbulent, comme tout le monde, vous savez, je suis né, et puis j'ai fait l'école gardienne. À Lubumbashi, en famille sociale de 82, et puis l'école primaire à l'EPO, de 82, secondaire. Turbulent, oui, c'est ça la jeunesse.
Racontez-nous une turbulence de jeunesse.
Bon, une turbulence de jeunesse, il faut comprendre que quand James Brown est arrivé ici, j'étais président du club des Boys. Et ceux qui connaissent Katoubadé, j'étais le président à cette époque-là, c'était terrible. Je pense aussi à mes amis camarades d'antan. Par exemple, Mouyej Manguez, l'actuel honorable, c'est un ami d'enfance de longue date, hein, parce que j'étais sur la Rwanda, lui aussi sur la Rwanda, mon numéro 56, le numéro 49. Je pense à d'autres qui sont déjà décédés comme Angoisse, donc c'est un gars Angoisse Blake. Moi, on m'appelait à ce moment-là Jolly Blake. Hein, vous comprenez? Bon, quand on est arrivé à l'université, par exemple, ici à l'ISC, j'étais commandant de la brigade. Hein. À ce moment-là, donc, vous voyez, ça, tout ça, ça se rentre dans la jeunesse. On a grandi. Hein. Je fais un peu de la boxe et puis je joue beaucoup au foot. J'étais gardien. Mais maintenant, c'est des cultures physiques. Là, je marche beaucoup. Je fais la lecture aussi et le cinéma, c'est ce que j'aime beaucoup.
Et la musique?
Bon, un peu.
Un peu. Quel genre de musique?
Bon, la musique douce, calme, fait voir, donc c'est ça, je suis pas...
La musique des années Black Boys.
Oh, ben bien sûr, donc on a pas de chance, on est Sex Machine, tout ça, on a joué, on a dansé beaucoup, hein.
De 59 à 62, vous en parliez déjà, vous faites votre école gardienne et maternelle au foyer social Katoubadou à Lubumbashi au Katanga. En 69, vous décrochez votre certificat primaire à l'école primaire officielle Katoubadou, toujours à Lubumbashi. En 77, c'est votre diplôme d'État en option commerciale et administrative à l'Institut de la Révolution en Mbujimayi au Kasai Oriental. Qu'est-ce qui justifie ce changement de province?
Exactement, parce que j'ai commencé les humanités commerciales à Lubumbashi, à la zone, à ce moment-là, on appelle les zones Kenya, à l'Institut Matunda. Mais il se fait que mon père a été muté en Mbujimayi, je devais partir avec celui-ci. Et parmi donc le OD de la ville de Mbujimayi, ceux qui connaissent M. Tizik Henry, c'est mon père, je suis son fils, mais il est décédé en 2002. Donc c'est ainsi que je partirai de Lubumbashi pour Mbujimayi. Là où je dois terminer, donc je dois obtenir mon diplôme d'État à l'Institut de la Révolution.
Et ce changement de province était facile pour vous?
Non, ce n'était pas facile parce que, personnellement, tout en étant à Lubumbashi, dans mon environnement, quand on a grandi, j'ai eu des amis caféens, et puis j'étais très 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 bien, même aujourd'hui, mon épouse, elle est caféenne, hein. Et puis, bon, j'ai évolué très bien quand je suis arrivé en Mbujimayi. Bien sûr, la langue n'était pas. Et donc, le Tiluba, là, c'était pas étranger. Pourquoi? Parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup d'amis valois. Alors, quand je suis arrivé là, c'était vraiment les temps peut-être trop déstabilisé de voir la ville, qu'est-ce que c'était.
Le Tiluba, vous le parlez très bien?
Bon, je parle très bien, mais je ne maîtrise pas très, 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 très bien Tiluba. Mais lorsque vous parlez Tiluba, là, donc, 5 minutes, 10, je rentre dans le bain, je suis bien. Malkai, Malvin, pareil.
Tatouroum, Malkai.
Malvin.
Biche.
Bien, pas d'amis.
En 1982, vous devenez gradué de l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa. Comment vous arrivez à Kinshasa?
Bon, quand je termine, j'ai mon diplôme d'État en Mbujimayi, je vais aller à Lubumbashi. Alors, je ferai une année à l'université de Lubumbashi en sciences politiques administratives. Pourquoi? Parce que quand je suis rentré, je suis tombé malade, donc je vais opérer l'appendicite. Je reste auprès de la famille. Dans l'entretemps, au même moment, je vais introduire ma demande ici à Kinshasa, à l'université de Kinshasa et puis à l'Institut supérieur de commerce. commerce. Mais en venant ici, j'ai regardé, bon, je préférais vite aller à l'Institut supérieur de commerce.
En 2001, vous obtenez votre bac en administration, option gestion financière à l'Université de Montréal, École des hautes études commerciales au Canada. Comment arrivez-vous dans ce pays?
Bon, quand je suis ici, j'ai terminé mes études, donc je fais une spécialisation à la Banque du Peuple, donc je suis envoyé à Goma, je travaille, et puis je rentre à Kinshasa, je travaille un peu à Lopez, puis je suis allé en Italie pour me perpétuer dans les domaines de PCT et moins d'entreprises. En 90, c'est ce moment-là que je quitte d'une façon un peu, avec un seul mal au cœur jusqu'alors, parce que je suis parti en catastrophe même, un animal, ce n'était pas comme ça, je partirais de mon pays par la force, bon, la force des choses, on accepte. Je vais me retrouver en Angola, et puis je continue ma vie un peu en Angola, et puis dès là, je serai donc affecté en Amérique du Nord en tant que représentant plénipotentiaire du Front de Libération Nationale Congolais en Amérique du Nord, et j'arrive au Canada. Bon, comme tout le monde, comme tout le refugié politique, bon, d'abord, j'ai commencé à ce moment-là que j'arrive, je régularise d'abord ma situation, et puis j'ai créé mon entreprise Groupe Lonka en 1996. J'ai créé mon entreprise, alors en ce moment-là, je commençais pas à vivre. Donc, je devais à ce moment aussi légaliser mes documents académiques. C'est ainsi que quand je légalise mes documents académiques, on doit me donner deuxième niveau en Amérique du Nord des études. Alors, je rentre à l'université, je fais une année qui m'a resté, et j'obtiens le niveau universitaire.
Acteurs sociaux, découvrez les activités, les fonctions, mais aussi la personnalité de ces hommes et ces femmes qui façonnent la République démocratique du Congo d'aujourd'hui et de demain dans Le Grand Témoin, chaque samedi et chaque dimanche à partir de 7h, heure de Kinshasa.
Grand témoin s'entretient aujourd'hui avec Nickel Rumbo Kadmoui, mon investisseur congolais résident au Canada. En 1985, vous travaillez ici au pays à la Banque du Peuple, vous en parliez aussi, à Opez, et en 90 à la Banque de Crédit Agricole, BCA. Qu'est-ce qui, d'après vous, a causé la chute de cette banque qui, pourtant, avait bien commencé selon certains économistes?
Il faut comprendre une chose. Dans les temps, il y avait un parti État. C'est le parti État qui décidait tout. Personnellement, quand je suis parti de la Banque du Peuple, c'était dans des conditions très difficiles. J'étais au niveau des crédits. Je fais une analyse des crédits, mais voyons, on m'oblige que vous devez changer de donne. Alors que moi, j'étais professionnel. Ce qui fait que, quand on regarde très bien ce moment-là, donc, il y a eu beaucoup de gens qui ont eu des crédits qui n'ont pas remboursé. Plusieurs banques sont tombées en faillite. Avant, la Banque du Crédit Agricole, je crois que c'était la caisse, quelque chose comme ça, qui est tombée en faillite de la même façon que la Banque BCA connaîtra aussi sa fin. Alors, je pourrais dire que c'était la mauvaise gestion. Et puis, peut-être les gens qui prenaient des crédits n'étaient pas sensibilisés. Bon, comment il fallait gérer, comment il fallait restaurer ce montant de crédit.
En même temps, en 1988, vous vous spécialisez en développement des petites entreprises à Turin en Italie. Comment la RDC peut-elle, à votre avis, développer ces petites et moyennes entreprises?
Bon, vous savez, quand on parle de petites et moyennes entreprises, il faut comprendre d'abord que c'est ça même les poumons économiques de tout un pays. Ce sont les petites et moyennes entreprises qui façonnent l'économie d'un pays. Ce ne sont pas des grandes entreprises de la Gécamine. La Gécamine est là, mais autour de la Gécamine, il y a toutes ces petites et moyennes entreprises qui fonctionnent. Si celles-ci ne fonctionnent pas, donc c'est ça la chute. Bon, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu que la vision de voir les choses ici en Afrique, bon, je pourrais dire en général, et particulièrement dans notre pays, on pense à Kinshasa. Mais on ne peut pas développer ce pays à partir de Kinshasa. Il faut développer ce pays à partir de l'intérieur et à partir de petites et moyennes entreprises. Regardez un peu dans les temps, chaque province produisait en termes agricoles, parce que notre pays, c'est un pays à vocation agricole. Et c'est en ce moment-là qu'un autre pays apparaissait sur les statistiques internationales. Mais aujourd'hui, nous paraît que malgré les prix de tout qu'on sort là. Alors, la présence de petites et moyennes entreprises dans une économie, qu'elle soit dans un pays sous-développé, développée, très importante. Donc, il faut qu'on y mette l'accent, c'est très important. Ici, je pense qu'il y a plusieurs choses à faire. Dans chaque commune, donc, il y a plusieurs petites et moyennes entreprises. Donc, il y a plusieurs projets qu'on peut, à partir de chaque commune, réhabiliter ou bien faire fonctionner.
En 95, vous vous retrouvez à Luanda, en Angola, à la tête de l'entreprise Pessina. De quoi vous occupez-vous exactement?
Alors, quand j'arrive à Angola en 95, donc après un temps, vous verrez que de 90 jusqu'à 95, je n'ai pas parlé parce qu'il y avait l'activité politique. J'ai donc créé un bureau d'audit interne qui de développement des petites et moyennes entreprises angolaises. Là, j'ai travaillé en collaboration avec la Chambre de commerce et puis on a essayé un peu de mettre certains projets pour réhabiliter certains entreprises qu'on a amenés à la BAD. Et puis alors, il y a eu des financements et donc c'était ça.
Est-il aussi facile, Nickel Rumbo, à un entrepreneur congolais de diriger une entreprise à l'étranger?
Oui, c'est la capacité. Il ne faut pas sous-estimer les Congolais. Nous avons des capacités. Nous avons eu dans les temps, bon, je crois même aujourd'hui, il y avait une formation, nous avions de bonnes écoles. Parce que mon école, là où j'étudie, en tout cas, je n'ai rien envié donc l'extérieur. Quand je suis arrivé à l'extérieur, par exemple, je n'ai pas fait la comptabilité. Toute la comptabilité, moi, je l'ai appris ici. Donc, vous comprenez que... Il y a une formation, chaque pays a sa politique. Dans les temps, quand on a créé ces instituts supérieurs, c'était pour développer. Parce que le développement, c'est la technique. Il faut qu'on donne la technique à toute personne. Dès qu'il a son diplôme de travail. Mais pourquoi avoir un diplôme que vous n'avez pas la technique? Comment allez-vous travailler? Ça, c'est un problème.
En 96, vous êtes président du groupe Lonca Group, GLG, à Montréal, au Canada. Que faisiez-vous dans cette entreprise?
C'est mon entreprise que j'ai créée personnellement. Je commençais par des services, de rendre des services tout en étant au Canada, et puis en Angola, surtout c'est là où j'ai travaillé. Donc j'ai ouvert le marché, et puis j'ai pris à certaines entreprises canadiennes, entre autres, dans le domaine de l'informatique que j'ai installé en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, à l'aide que je vous parle, peut-être la Côte d'Ivoire de produire des ordinateurs sur place, et bon, ça vient en pièces détachées, et puis on a créé donc une unité d'assemblage, on le fait sur place, et puis à la maintenance, l'entretien. Pourquoi? Parce que tout en étant en Angola, par exemple, j'ai constaté que ce qui a manqué beaucoup, c'était l'entretien. On avait du matériel, on avait beaucoup de choses, mais il n'y avait pas d'entretien qui font. Donc il faut former un cadre pour entretenir tout ce qu'on avait, pour prétendre à tout développement, ou bien à une évolution quelconque de la chose.
En 2002, vous vous spécialisez en énergie renouvelable, l'énergie solaire à Montréal, au Canada. Vous le savez, la RDC a d'énormes problèmes d'énergie. Nickel Rumbo, comment les résoudre? Nous avons posé la question à Abba Bimbay, ancien ministre de l'énergie de feu, le président Laurent Désiré Kabila. On l'écoute.
Moi, je crois qu'il faut en plus d'avoir quelqu'un qui a dû réfléchir longtemps dans ce domaine. Des fois, on a vu que ça ne donnait pas de résultats. J'ai vu des anciens PDG ou des anciens directeurs de la SNEL ou de la Régie des eaux qui passe ministre, c'est l'étranger. Il faut une volonté politique, il faut une vision, et il faut en même temps l'aide extérieure. Il faut pouvoir choisir les partenaires extérieurs. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, Inga. Inga, aujourd'hui, vous discutez avec les Chinois, puisque c'est de la mode. Vous savez que c'est les Chinois qui ont aujourd'hui les plus grands barrages, les barrages de Trois Gorges. C'est le plus grand du monde. Avant, il y avait le haut barrage de la soie. Nous avons dépassé le barrage de la soie. Maintenant, c'est ceux qui viennent de le dépasser, c'est les Chinois. C'est un Chinois qu'il faut confier. Par exemple, la réhabilitation d'Inga. Vous confiez à des gens, on ne sait pas très bien, des Portugais, des Canadiens, des entreprises, on ne sait pas où. Mais ils n'ont pas l'expertise pour gérer ce genre de choses. C'est pour ça qu'il y a des problèmes. Pour tous ces secteurs-là, il faut faire des choix judicieux. Par exemple, je vais vous donner un autre cas, qui est toujours dans le domaine de l'énergie. Nous avons le gaz au Kivu. Qui traîne? Nous avons le Gazprom, la Russie. La Russie, c'est le plus fort en gaz. Il faut collaborer avec les gens qui connaissent.
Nickel Rombre, faut-il aujourd'hui, avec la pollution, le réchauffement climatique, faut-il abandonner, délaisser toutes ces sources d'énergie pour se tourner vers l'énergie solaire aujourd'hui?
Non, abandonner, c'est trop cruel pour les individus. Donc, il y a un virage qui se fait vers l'énergie renouvelable, les énergies vertes. Tel que vient de le dire l'ancien ministre, je suis tout à fait d'accord avec lui. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas confier, quand on parle par exemple d'Inga, moi j'étais ici, on a parlé d'Inga, mais l'Inga ne livre pas, qu'est-ce qu'il a éliminé? Toutes les villes, peut-être, à part Kinshasa, je pourrais dire, nous étions dans l'obscurité. Mais il faut trouver, par exemple, d'autres solutions qui peuvent répondre directement aux besoins donc des Congolais. Quand je parle des Congolais, je ne vois pas seulement l'enlever de Kinshasa, je vois ceux qui sont à l'intérieur du pays. Imaginez-moi un pays comme le notre, avec Inga. Les gens à l'intérieur du pays n'ont pas accès à l'eau potable. Mais avec l'énergie solaire, par exemple, et le soleil est là, personne ne peut dire le contraire. Mais il suffit de placer le panneau, de mettre toute la structure. Donc, nous pouvons capter l'eau, ramener ça à la surface. La personne a l'eau potable, c'est ça le développement. On n'y a pas développé si on n'a pas accès à l'eau potable. Et le soir, chacun de nous a droit à une distraction. Tant qu'on peut allumer son poste téléviseur, on peut rester dans une lumière. Quand je suis arrivé, par exemple, ici à Kinshasa, qu'on est atterri à 19h, c'était l'obscurité, je ne fermais pas, je vous assure. Nous pouvons parler d'Inga, ça nous coûte trop cher. Vous voyez ce qu'on a investi. Mais aujourd'hui, il y a des possibilités. Il faut tourner, peut-être aller vers cette technologie et essayer de voir dans le protocole de Kyoto, je le dis très bien, il y a une disposition qui parle des mécanismes propres de développement et de l'application conjointe. Un pays développé tel que le Canada ou la France, n'importe quel pays, ne peut pas aujourd'hui mettre une croix sur tout ce qu'il a déjà investi. Mais nous, nous sommes sous-développés, nous sommes en train de chercher comment avancer avec les choses. Alors, en ce moment-là, on peut collaborer. C'est comme on vient de le dire. Moi, aujourd'hui, si vous me parlez qu'une cuisinière doit fonctionner avec de l'électricité, moi, je trouve que, écoutez, c'est un peu dépassé. Hein. Il faut pas parler de gaz. C'est plus pratique. Parce que je peux être très loin. Je vous y fonctionne.
Le panneau solaire est-il accessible à tous les Congolais?
Mais oui. Parce que vous savez, l'accès, c'est quoi? C'est une façon de penser, puis tout un projet, donc c'est une façon d'abord de voir la chose. Parce que nous pensons, je suis certain, je vous l'ai dit, qu'il coûte 5 000 ou 10 000, tout Congolais, je passe lui-même, donc, des zones rurales, à toi à faire. Parce que nous pouvons changer le mode de vie, comment est-ce qu'il peut l'acquérir là aujourd'hui? Mais on étale son paiement sur 5, 10 ans, et là, en Europe. Qui paye cash? Personne ne paye cash. Vous devez avoir un véhicule, mais vous ne payez pas tout à fait le cash, mais vous pouvez le payer pendant 46 mensualités. Vous comprenez? Donc, nous pouvons prendre cette réalité, ramener chez nous les gens qui sont à l'intérieur du pays, les organiser dans une coopérative agricole. Les produits, nous les vendons. Et ceux qui rentrent, nous payons une partie. Mensuellement, ces gens-là doivent vivre comme nous qui sommes dans des grandes cités. C'est ça.
Et avec cette expertise que vous avez en énergie solaire, avez-vous pensé à faire quelque chose ici sur place?
Oui. Oui, c'est pourquoi on est là. Pourquoi? Parce que donc, après les élections, on a parlé, il y a une reconstruction de ce pays. Et donc, c'est donc partie des zones rurales. Donc, personnellement, ce projet, c'est un projet que, quand je l'ai fini, puis j'ai tiré un peu quelques cours par-ci par-là, j'ai présenté ce projet, donc mon directeur était très content parce que c'est la réhabilitation socio-économique des zones rurales par les rayons solaires en Afrique subsaharienne, bon, les cas pratiques ici chez nous. Donc, je vais m'installer dans une zone rurale, organiser la population dans une coopérative agricole, et puis, leur donner cette possibilité que chacun peut avoir son panneau solaire. Donc, si c'est votre panneau, vous le gérez, vous le payez pendant 5 ans, il vous appartient. C'est ça.
Radio-Canada, grand témoin.
Investisseur congolais résident au Canada, Niken Rumbo Kadmuyumbo est notre invité aujourd'hui. Niken Rumbo, en 2002, vous vous spécialisez encore en entrepreneurship à l'Université de Montréal au Canada. Expliquez-nous un peu cette option.
L'entrepreneurship, donc, on est en train de nous mettre dans la tête comment être le patron de soi-même, être autonome. Vous voyez, dans nos pays ici, donc, je rentre ici, vous trouvez tout le monde et dans l'administration. Mais si l'administration ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, il faut créer un projet, il faut être patron de soi-même, il faut travailler. C'est comme je viens de le dire encore, quand j'arrive ici au Congo, moi je ne veux pas habiter à l'intérieur parce que je ne change, que je ne verrai pas les changements. Je dois aller dans une zone commune ou zone rurale.
Pour palper les réalités.
Exactement, je vis là et puis j'en à partir. C'est là moi qui va naître un projet. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. Et l'intérieur, c'est pour donc on est en train de vous dire donc, comment être un entrepreneur, comment donc présenter son plan d'affaires, ce qu'on appelle projet.
Projet.
Exactement. Et comment donc regarder, créer des projets immédiat, à court terme, à moyen terme, à long terme.
En 2005, vous travaillez comme président du conseil d'administration de la coopérative Bellefleur à Montréal, au Canada. Détaillez-nous ce que vous y faisiez.
Donc, au Canada, les gens sont tentés de se prendre, mais ce n'est pas comme ici chez nous, le gouvernement, l'État fait tout. Les gens s'organisent, l'État donne à tout le monde comment s'organiser. En ce moment-là, j'étais président du conseil d'administration de la coopérative Bellefleur. La coopérative Bellefleur, c'est quoi? C'est une coopérative d'habitation. C'était presque en faillite. Alors, en ce moment-là, on s'est réunis en conseil d'administration. J'ai été élu président du conseil d'administration en 2003. Alors, je vais travailler, on va mettre toutes les structures de la législation en place, on va la mettre, l'appliquer, puis on va réglager tous les dossiers, puis on a isolé toutes les finances, c'était très bon. Alors, ce qui fait qu'en 2002, parce que c'était presque la fin de mon mandat, j'ai terminé, j'ai laissé la place à vous autres. Donc, c'est une culture qu'on a appris, on en est là, on doit fonctionner, on doit travailler pour 5 ans, 2 ans, 3 ans, après ce sont les autres qui vont continuer.
Vous avez aussi plusieurs projets, Niken Rumbo, commençons par le recyclage des déchets ménagers et salubrité communale. Les ordures, c'est une grosse épine dans le pied du Congolais. Que comptez-vous faire concrètement dans ce domaine?
Vous savez, le recyclage, c'est comme je viens de le dire, c'est un sérieux problème. Ça fait 2 ou 3 jours que je suis sur la maison parce que c'est le Mumba. Je n'en reviens pas. Je pense que chaque commune doit être en mesure de gérer
ses déchets.
Dire aux ménagers bon, de les scinder, de mettre peut-être des bouteilles de l'autre côté, le véritable déchet donc du ménage, entre ce qui reste de nourriture, le mettre de l'autre côté. Il y a une voiture ou bien une camionnette qui ramasse ça. C'est de nourriture, on va les mettre quelque part, demain, après-demain, on peut les utiliser comme engrais, dans
fumier,
fumier tout concert. Mais ce qui est, par exemple, comme des bouteilles tout concert, on peut les diriger facilement pour les recycler dans les entreprises. Ouais, c'est ça, c'est très simple. Donc, il faut seulement dire à la population qu'est-ce qu'il faut faire au besoin, leur fournir le modèle de poubelle, hein, emballage de poubelle, qu'on a dit. Mais ici, je dis très bien, ce qui est comme plastique, c'est dépassé parce que ça se détériore pas facilement. Il faut comprendre, donc il faut penser à ces choses.
Un autre projet à vous, c'est la gestion de population par l'adresse physique et le service postal. Comment s'articule ce projet?
Moi, je vais vous expliquer. C'est très simple. À l'étranger, tout le monde peut l'accepter. Il n'est plus question d'attendre son passeport, son permis, aller au bureau, non. Vous faites votre demande, vous envoyez par la poste. Ça part et ça arrive. Moi, qui vous parle, quand j'étais enfant, je voyais un facteur passer sur ma rue, déposer une lettre. Mais qu'est-ce qui fait que ça ne fait pas aujourd'hui? Donc je pense que nous devons commencer par les communes, organiser l'administration communale, présenter ces projets. Donc ici, je pense qu'il faut aussi que le ministère des tutelles libère certaines choses. Au-delà, essayez seulement d'organiser, c'est très simple, je vous l'ai dit. On va par l'adresse, on commence par les rues. Il y a des maisons, on donne le nom de la rue, le numéro de la maison. On saura par exemple que sur la rue, je ne sais pas, X et Y, il y a un monsieur qui s'appelle Hiron. Hiron, il vit avec 4 ou 5 personnes. Si Hiron a besoin de présence d'une carte d'identité, Hiron fait sa demande sur un formulaire, il le paye à la banque, il l'envoie par la poste. Le ministère concerné reçoit, il traite le dossier, il retourne à Hiron le document par la poste. En ce moment-là, nous pouvons savoir, lorsqu'on cherche M. Hiron, on va le trouver à telle adresse. Et puis, de l'autre côté, nous mettons, quand ce soit le vouloir, les services de poste courrier en fonction à partir de communes. Donc, je suis à Kinshasa, je peux envoyer une lettre alimentée à la Gombe, tout comme ça, ce sont. Et c'est là, il faudrait qu'il y ait une complicité du gouvernement, du gouvernement. I wouldn't have
aussi qu'il y a moyen de lutter efficacement contre la corruption en RDC. Comment cela?
Bon, écoutez, c'est très simple. J'arrive aujourd'hui au Mangal, je suis peut-être à pied, mais je vois ceux qui passent là-bas. Lui, il a fait des années, ou bien il a passé des années, mais il roule. Mais moi, qui suis son chef, je n'ai rien. Devant moi, il y a des millions qui passent. Qu'est-ce que je fais? Donnez-moi la chance. La chance, c'est quoi? Il faut instaurer le système de crédit. Vous travaillez. Vous avez droit à la vie. Vous devez avoir un poste téléviseur qui vous coûte peut-être 200 dollars, mais vous, votre salaire n'est pas 200 dollars. Mais vous pouvez le payer cela peut-être dans une année, mensuellement. C'est ça, le crédit. Donc on peut facilement dire à tout le monde, vous pouvez avoir une maison tout en travaillant, mais vous pouvez payer cette maison en 5 ans. ça se fait en Europe, c'est comme ça, on n'achète jamais cash. Et c'est ça, donc, s'il y a une possibilité, ça c'est très facile, je pense que tout le monde doit, d'ailleurs, sera invité à aller travailler.
Pour clôturer cette émission, Michael Rombre, quel message pouvez-vous adresser à tous les investisseurs qui doutent encore de venir au Congo en ce moment?
Il est vrai, lorsque nous sommes à l'extérieur, bon, il y a des échos, on rentre en Europe, on est du Congo, l'insécurité, il est vrai, l'insécurité est là, et on peut vous tuer au bientôt. Mais c'est chez nous qu'il faut rentrer. Et vous regardez très bien ce qu'il y a. Puis de l'autre côté, je pense que le gouvernement devrait voir un peu pour les investisseurs, donc les tarifs douaniers, impossible de les diminuer, donc de se mettre d'accord, ce sont des choses qui sont. Mais il faut rentrer, vivre, ne pas commencer à être indéfiniment. Bon, parce qu'on a dit, on a dit, je suis là, j'ai pris des positions très graves en politique, mais je suis là, je suis librement.
Michael Rombo, merci d'être passé à Grand Témoin.
Merci, je vous remercie aussi.
Grand Témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Nous recevions Michael Rombo Kadmwimbo, investisseur congolais résident au Canada, à la technique et à la réalisation Jean-Noël Mokondo, à la présentation Alain Hirung. Retrouvez cette émission sur le site Radio Capi, www.radiocapi.net, où vous pouvez réécouter toutes les émissions de Grand Témoin. Merci à tous ceux qui nous suivent à Tikapa, dans la province du Kasaï occidental et partout dans le monde.